Voilà, c'était un chapitre de notre émission dans Remue Ménage, Onde Femmes Radio Zone 93.8 sur la vie de certaines femmes africaines, en tout cas au travers d'une tranche de vie plus personnelle, tranche de vie de Germaine Akoni, danseuse sénégalaise. Et puis une pause musicale dans un genre complètement différent, puisque c'est Ginesa Ortega qui chante avec la Fura del Baus. Ginesa Ortega, une grande chanteuse et danseuse de flamenco. Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8 et nous écoutons encore la musique de la Fora dels Baus. Pour la deuxième partie de notre émission, eh bien, aujourd'hui, je vous propose en fait la cinquième émission consacrée au thème « La religion par les femmes ». Ceci en prenant un maximum d'informations dans un livre très très intéressant écrit par Nancy Auerfoke et Rita McGross, deux Américaines. Ce livre publié aux éditions Labor et Fides. Et ces deux femmes, Nancy Auerfoke et Rita McGross, ont réuni en fait toute une série de collaborations de femmes, d'hommes, beaucoup de femmes, qui ont étudié le rôle que les femmes tiennent dans différentes religions dans le monde aujourd'hui et surtout la place que parfois elles arrivent à conquérir en tant que femmes dans certaines religions qui pourtant d'habitude ne laissent pas grand espace au pouvoir des femmes, puisqu'il s'agit souvent de cela, quel pouvoir les femmes détiennent lorsqu'elles sont intégrées, lorsqu'elles ont une pratique religieuse. Alors, nous avions vu en première émission le portrait d'une femme devin d'Afrique orientale, Julia. Nous avions vu ensuite ce que la mère gourou Jananda de Madras pouvait faire, imposer. Et puis, dans nos cultures, celle qu'on a appelée la mère universelle catholique, Dorothy Day, avait pu développer comme pouvoir des femmes dans l'Église catholique américaine. Et puis, lors de notre dernière émission, eh bien, nous nous étions penchés sur ce que les femmes au Maroc font, celles que l'on appelle les saintes et que l'on trouve surtout dans les sanctuaires, dans différents lieux saints du Maroc. Aujourd'hui, eh bien, une cinquième façon d'évoquer le rôle des femmes dans la religion, en nous penchant sur une toute autre façon de faire et dans une toute autre région du globe. Ceux d'entre nous qui ont grandi dans des traditions occidentales relativement formalisées, dans le catholicisme ou le protestantisme ou même le judaïsme, pensent d'habitude que les gens qui font un choix personnel et volontaire lorsqu'ils entrent dans un mouvement religieux ou se lancent dans une carrière religieuse, par exemple comme l'a fait Dorothy Day, cette Américaine dont nous parlions tout à l'heure, eh bien, ils le font de leur propre choix. Toutefois, l'exemple de Julia, la devine, la femme de vin en Afrique orientale, et la mère gourou de Madras, Jananda, font apparaître en fait que lorsque des femmes obéissent à une vocation que l'on peut appeler exceptionnelle, elles ont en fait autant l'impression d'être choisies que d'opérer un choix. Et de telles expériences de possession ou de ravissement extatique, comme on les appelle, sont fort répandues dans la vie religieuse des femmes. Alors, beaucoup de chercheurs du domaine religieux ont fait l'observation que les femmes fonctionnent souvent comme chamanes ou comme médiums dans les cultures les plus diverses. Les mouvements religieux qui valorisent les phénomènes de possession ou d'extase semblent plus ouverts aux femmes que les traditions plus formelles et structurées qu'on décrit d'habitude dans les manuels sur les religions. Les lois religieuses et les bureaucraties peuvent dicter que seuls les hommes deviendront prêtres. Eh bien, dans d'autres religions, c'est les dieux qui choisissent qui y veulent. Par conséquent, ces vocations et ces mouvements semblent avoir souvent pour fonction importante de donner une possibilité d'expression aux femmes, par-delà le refus des institutions. Et leur énergie, leur intelligence, souvent refoulée ou écrasée, leurs frustrations sont ainsi libérées dans une véritable explosion. Alors, quand de telles explosions se produisent, eh bien, cela peut facilement être une cause de scandale dans la famille ou la société dans laquelle elles se trouvent. Mais elles peuvent cependant servir en même temps de sorte de soupape de sécurité religieuse, d'une certaine façon. On sait bien qu'il y a des femmes qui se, disons le mot, désintégrerait peut-être complètement, littéralement, et peut-être même la société tout entière aussi, si ces femmes ne trouvaient pas de tels canaux d'expression. Alors, c'est pourquoi les dépressions nerveuses féminines sont fréquemment interprétées en termes religieux et sont canalisées dans des rituels, des expressions culturellement acceptables. Le résultat en est souvent que les femmes et leurs familles évitent ainsi le danger de se désintégrer. Bon, ceci évidemment concerne essentiellement d'autres régions que les nôtres. Mais pourtant, on peut trouver des exemples de cette rébellion ritualisée, comme on pourrait l'appeler, chez des femmes de cultures très différentes, à des époques très différentes, aujourd'hui ou bien, par exemple, comme dans la Grèce antique, et bien sûr dans différents lieux de la planète. Et le lieu dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, qui a été l'objet d'une étude réalisée par Jung-Sung Kim Hawe, qui est une Coréenne, et bien justement, elle a fait une étude sur, en quelque sorte, les femmes de la jeune génération coréenne, femmes qui s'adaptent, semble-t-il, très mal au rôle traditionnel de maîtresse de maison et qui souffrent de dépression. Alors la psychiatrie populaire coréenne connaît un moyen rédhibitoire de les guérir. Elles les reconnaissent comme chamanes, c'est-à-dire conseillères psychologiques et guérisseuses, et les Coréens les consultent et les payent pour l'aide qu'ils reçoivent d'elles. Et une fois qu'elles ont accepté cette vocation chamanique, eh bien, elles n'ont plus besoin d'affronter la situation qui a en fait déclenché leur dépression. Mais pour cela, toutes sortes d'étapes sont à franchir, et c'est ce dont va nous parler Jung-Sung Kim Hawe. Jung-Sung Kim Hawe est née en Corée, mais elle a vécu aux États-Unis depuis l'âge de 17 ans. Elle a fait ses études, travaillé et vécu sur la côte Est et puis aussi à Hawaï. Et au moment où elle a écrit cette étude sur les femmes chamanes en Corée, eh bien, elle travaillait comme professeure associée d'anthropologie à la Chaminade University et comme professeure clinicien assistant en psychiatrie à l'école de médecine de l'université de Hawaï. Elle a donc écrit une monographie sur qui a pour titre « Six femmes chamanes coréennes, le rôle socialisateur des chamanes ». Donc qui fait l'objet de ce chapitre dans le livre « La religion par les femmes » réuni par Nancy Hoffolk et Rita McGross. Je vous dis juste que malheureusement, depuis la publication du livre, eh bien, Jung-Sung Kim Hawe est décédé, ceci en 1983. Alors, tout de suite, rentrons dans peut-être d'abord quelques descriptions plus générales sur ce qu'est la tradition des chamans en Corée. Mùi
都醒觉以后难再追，只有使我痛心。
Il y a en Corée une vieille tradition qui remonte sans doute au temps préhistorique. C'est celle du rôle religieux de la chamane qui est assumé justement par les femmes. On trouve deux sortes de chamanes en Corée. La première est une prêtresse de famille, rôle généralement héréditaire. La seconde peut être considérée comme une chamane professionnelle qui dispense ses services contre paiement. À la différence des prêtresses de famille, ces chamanes professionnelles parviennent à la position qu'elles occupent à travers l'expérience personnelle de la possession par les esprits et par des rites d'initiation consécutifs, sous la direction de chamanes, toujours femmes, professionnelles qualifiées. Ceux-ci et celles-ci peuvent entrer en transe à volonté et sont crédités de pouvoirs surnaturels. Ils s'en servent pour répondre aux demandes de leurs clients. Et pour la très grande majorité, je vous le disais, ces chamanes sont des femmes. Alors, les chamanes hommes sont considérés comme très marginaux par les Coréens. Et c'était habituellement des travestis jusqu'à il y a une trentaine d'années. Ce qui ne signifie d'ailleurs pas forcément du tout qu'ils soient homosexuels. Il faut connaître en fait l'arrière-plan historique que je vais tenter de vous résumer en quelques phrases, pour comprendre justement la situation actuelle des chamans, car l'institution du chamanisme professionnel résulte en grande partie de décisions qui ont été prises sous la dynastie Yi, qui a régné il y a fort longtemps, mais pendant longtemps aussi, de 1392 à 1910. Alors le gouvernement de la dynastie Yi a été établi par des maîtres du néo-confucianisme, une nouvelle religion qu'on tentait d'imposer contre le chamanisme, et des personnages officiels qui étaient donc fanatiquement déterminés à réformer radicalement la société coréenne. Et les chamans et les cérémonies chamaniques furent très rapidement, bien sûr, les cibles préférées de l'attaque de la dynastie Yi. Et le nouveau régime considérait que le chamanisme faisait appel aux aspects non rationnels de l'humanité. Par conséquent, il était absolument nécessaire de l'éliminer si on voulait mettre sur pied une société rationnelle, bien sûr. Alors au début, le gouvernement essaya de couper le contact entre la population et les chamans en bannissant ces dernières des cités et des villes et en infligeant des sanctions à ces agents officiels lorsque ceux-ci restaient sur place. Mais ces efforts pour substituer le néo-confucianisme au chamanisme n'eurent d'autres résultats que de repousser ce dernier dans la clandestinité. Et le programme d'éradication échoua en bonne partie parce que le néo-confucianisme n'était pas capable de répondre aux besoins affectifs et religieux du peuple. Je crois que c'est une notion importante, ça. Finalement, alors, le gouvernement de la dynastie Yi reconnut la vanité de sa tentative, en quelque sorte, et passa d'un programme d'éradication totale du chamanisme à une politique de restriction sévère destinée à le contenir. Tout en permettant aux chamans d'exister, le gouvernement les obligea à prendre une patente, les soumit à une taxe et leur assigna officiellement à eux et à leur famille le statut social de hors caste. Lequel statut pourrait faire de restreindre fortement les possibilités des chamans d'user de leur influence et de leur pouvoir économique pour entamer une ascension sociale. Et ces mesures, dont je viens de vous parler maintenant, sont toujours en vigueur aujourd'hui en Corée. Alors, bien sûr, ce qui intéresse les chamans et leurs familles, c'est de voir surtout qu'ils continuent aujourd'hui à souffrir de l'ostracisme dont sont victimes qui frappent les hors-castes en Corée. Mais ça n'a pas empêché le peuple coréen, et ça n'empêche toujours pas, de faire appel à ces chamans professionnels en tant que fonctionnaires religieuses et en quelque sorte d'ethno-psychiatres.
Oh,
找到美梦完美的她，你真心投份。
Les clients, en fait, veulent savoir de ces chamans si les esprits de leurs ancêtres se portent bien, veulent obtenir qu'ils arrangent une rencontre entre les ancêtres décédés et les ancêtres les décédents vivants, qu'ils déterminent les jours favorables pour les mariages ou les enterrements, qu'ils révèlent les raisons des conflits conjugaux et familiaux et donnent des conseils pour les résoudre, qu'ils accomplissent des rites pour assurer la prospérité, qu'ils ouvrent les portes de la bonne fortune à ceux qui sont en situation difficile, et qu'ils guérissent ceux dont le corps ou l'esprit est brisé. Donc voyez pourquoi on leur attribue ce titre de ethnopsychiatre. L'expérience fondatrice de la vie du chaman professionnel, de la chamane professionnelle, eh bien, c'est ce que l'on appelle le Singbyong, en fait la maladie de la possession. Alors cette crise est très souvent dure à supporter, aussi bien pour la femme qui en est victime et pour sa famille. Mais c'est en fait aussi une condition préalable, décisive, pour entrer dans la profession de chaman. Si l'on considère les désavantages du statut de chaman dans la société coréenne, c'est-à-dire le statut de hors caste, il semblerait que la maladie de possession joue actuellement le rôle d'un mécanisme qui permet aux Coréennes de sauver la face lorsqu'elles accèdent à ce statut et à leur famille de l'accepter. Mais la maladie de la possession est en même temps le reflet des tensions qui règnent au sein de la famille. Et lorsque une possession est diagnostiquée et soignée, ce qui advient lorsque la future chamane assume le rôle qui lui est proposé, ces tensions sont souvent partiellement soulagées. Alors, la maladie de possession est un terme pour désigner toute une série de symptômes physiques, mentaux et comportementaux. Alors, le symptôme irréfutable de la maladie est un état de possession au cours duquel la victime a des hallucinations et se comporte de manière considérée comme totalement inadéquate. Les Coréens disent que ce genre de comportement résulte de la possession des esprits. Au début, les symptômes sont physiques. Les victimes deviennent apathiques, elles se plaignent ensuite des affections comme l'anorexie, l'embarras circulatoire accompagné de sensations de grand froid ou d'insensibilité des mains et des pieds, de diarrhée, de faiblesse ou vertige, de maux de tête, de douleurs articulaires, d'insomnie, de nausées, de palpitations, de congestion respiratoire, ressenties comme une lourdeur du cœur, disent-elles, ou bien une oppression de la poitrine, des bourdements d'oreilles très pénibles, des accès de fièvre et des pertes de poids. Les 10 symptômes physiques ne réagissent ni au traitement locaux habituel, ni aux remèdes chinois à base d'herbes, ni à la médecine occidentale, et se combinent finalement avec d'autres troubles mentaux ou du comportement. Alors, les troubles mentaux. Eh bien, les troubles mentaux se traduisent généralement par des hallucinations auditives ou visuelles et des rêves étranges qui se révèlent après coup annonciateurs du rôle chamanique de leur victime. Les symptômes comportementaux, pour terminer, se composent d'actes divers qu'on jugera inadéquats ou choquants. Par exemple, prendre un bain d'eau froide en plein hiver dans une cour ouverte à la vue de tous, en contradiction, bien sûr, avec tant la pudeur féminine qu'avec une hygiène élémentaire. Autre comportement jugé inadéquat ou choquant. Voyager par temps chaud, dans les transports publics les moins chers, revêtu d'habits d'hiver d'un luxe extravagant, ou arrêter les étrangers dans la rue et leur dire la bonne aventure. Dans le pire des cas, aux yeux de la société, les victimes se mettront à raconter tout haut et en détail des choses qu'on ne devrait normalement pas dire en public. Elles diront par exemple que la maladie chronique d'une jeune mariée est imputable aux sentiments refoulés qu'elle nourrit à l'encontre d'une belle-mère abusive ou d'un mari qui refuse de mettre un terme à sa passion du jeu ou à une relation extra-conjugale. Ou bien elles feront allusion à la situation que tout le monde connaît, mais dont personne ne parle en public, de l'homme qui fait régulièrement faillite dans ses entreprises et qui l'impute aux perturbations domestiques provoquées par le caractère agaçant de sa femme, par exemple. Et elles révéleront parfois des cas d'adultère, dont vraisemblablement tout le monde est au courant dans le voisinage, mais que personne n'a reconnu ouvertement. Les symptômes comportementaux, donc les derniers qui véritablement vont permettre de déterminer que définitivement on est en présence d'une maladie de possession. eh bien, ces derniers symptômes comportementaux sont vraiment de nature très perturbatrice sur le plan social. Et la réaction typique des gens est bien sûr soit la colère ou la frayeur. Ils penseront que les femmes qui les manifestent sont moralement répréhensibles ou bien les traqueront encore plus ordinairement, tout simplement, de folles. En fait, si l'on en croit l'opinion populaire coréenne, il est extrêmement difficile de faire la différence entre une recrue chamane en état de possession ou une personne tout simplement folle. Le plus souvent, on se met à penser sérieusement à la possibilité de possession seulement au moment où la victime commence à agir comme une malade mentale. La victime qui souffre de ces symptômes n'est pas personnellement responsable et n'a pas non plus la liberté de s'y opposer. Toute tentative d'y résister ou de refuser l'appel, pense-t-on, aura inévitablement pour effet de provoquer des représailles surnaturelles menaçant la vie des victimes, voire de leur famille, et sera donc finalement un non-sens. La résistance ne fait qu'augmenter l'intensité et la durée de la maladie de possession. Et en outre, si la victime meurt sans avoir accepté le rôle de chaman, celui-ci sera reporté tôt ou tard sur un autre membre de la famille. Même si la victime accepte sa vocation, elle obtient... Mais si elle accepte sa vocation, elle obtient un soulagement immédiat et protège en même temps les siens d'un danger surnaturel potentiel. En conséquence, le fait de ne pas vouloir devenir chamane peut apparaître comme un acte de vain égoïsme, alors que si la victime assume son destin, on l'interprétera comme un geste d'altruisme qui aura pour double effet de protéger les autres et de soulager sa propre souffrance. Cela dit, la décision est compliquée à prendre parce que le fait d'avoir une chamane dans la famille relègue celle-ci, on vous l'a dit, parmi le statut des hors-castes. Mais il existe une autre croyance populaire qui la peut l'amener à vouloir que la victime accepte la vocation chamanique. Les Coréens croient que les esprits qui cherchent des êtres à posséder et à utiliser comme médium sont attirés spécialement par les individus dont l'esprit, l'âme, a été brisé par les mauvais traitements que d'autres leur ont infligés. Alors, posé sur les familles des victimes de la maladie de possession, tombe tout de suite un soupçon qu'elles les ont prédisposées à être possédées en les maltraitant. Alors les familles sont placées dans une position embarrassante qui les met psychologiquement sur la défensive par rapport à la communauté sociale.
Yahong